Le deuxième sujet, à propos de l'évangile d'aujourd'hui. Mais je n'ai pas pour but, de vous faire un gag, parce que cet évangile-là, vous ne l'avez pas entendu. C'est-à-dire, c'est l'évangile du 12e dimanche après la Pentecôte, qui a été remplacé aujourd'hui par le dimanche, l'évangile du dimanche qui précède la fête de la croix. À cause de ça, vous n'avez pas entendu celui du dimanche. Et dans cet évangile-là, il est question de ce jeune homme riche qui pose quelques questions à Jésus. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et immédiatement, il est dit que le Seigneur l'a aimé. Et quand le Seigneur lui répond que pour avoir en héritage la vie éternelle, et il n'a qu'à pratiquer les commandements, il dit, mais oui, mais ça, je le fais depuis toujours. Alors, je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Et le Christ lui dit, si tu veux hériter la vie éternelle, et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et à ce moment-là, il s'en alla triste parce qu'il avait de grands biens dont il n'a pas voulu ou pu se débarrasser. Et le Seigneur lui-même est devenu triste de voir la limite de celui qui aurait pu être un disciple en quelque sorte. Et après avoir résumé grossièrement cet évangile, mon but est de vous parler un tout petit peu de la pauvreté dans le sens évangélique. Notamment pour nous, les Occidentaux, nous avons souvent une conception de la pauvreté qui consiste à avoir peu de biens matériels et de faire bon usage de ce que l'on a. C'est évident. Mais la pauvreté que Jésus nous indique de vendre tous ses biens aux pauvres n'est pas simplement de ne pas s'attacher aux choses matérielles ou humaines de ce monde, ce qui est élémentaire, mais c'est de donner ce que l'on possède, et de le donner à qui? De le donner à Dieu. Or, que possède-t-on? Les objets, notre argenterie, nos lingots dans nos coffres ou nos collections de tableaux. Ça vous embête d'être obligé de vous en séparer, hein? Certainement pas. Il y a ça aussi, car la richesse n'est pas faite pour être dans des coffres forts et de dormir, pour avoir le plaisir d'avoir des réserves qui puissent servir éventuellement un jour. Mais les richesses sont faites pour circuler et pour être partagées. Au profit de ceux qui en ont besoin. Mais la vraie pauvreté, c'est de donner ce que l'on a. Et ce ne sont pas ces richesses-là, on a ce que l'on est. C'est-à-dire, c'est soi-même qu'il faut donner. C'est le don de soi que Dieu attend. Donner nos richesses, donner notre argent, ce n'est rien. Donner notre temps, ça c'est davantage. Parce que notre temps, c'est à peu près la seule chose sur laquelle nous ayons une possibilité de captation. Le reste, ça ne nous appartient pas. Le temps, c'est quelque chose de nous-mêmes. Mais nous-mêmes, ce n'est pas que notre temps. C'est aussi notre générosité. Voilà pourquoi un des thèmes principaux et fondamentale de la vie spirituelle comprise à la lueur de la doctrine orthodoxe, c'est le renoncement à la volonté propre. C'est un vocabulaire qui a peu cours en Occident. Il a cours, mais peu. Et nous avons en Occident des vieilles traditions qui font que ça exclut en quelque sorte ce don de soi-même. Et pourtant, c'est cela que le Seigneur attend. Le Seigneur attend de nous la générosité, non pas de lui donner ce que l'on a, mais de lui donner ce que l'on est. Et pour accomplir ça, pour lui donner ce que l'on est, il n'y a pas d'autre moyen que nous dépouiller, évidemment, de notre volonté propre. Je ne vais pas vous donner des exemples. Ils ne sont que, je vais dire, trop nombreux. Ils ne sont jamais trop nombreux, mais ils sont, ils me paraissent évidents. Cette doctrine-là, si je puis dire, se fait sentir même dans les conceptions de la vie monastique. Il y a des ordres religieux en Occident qui ont insisté sur le sens de la pauvreté. Et la pauvreté comprise comme ne rien avoir. Ceci n'est pas dénué de valeur, bien sûr, mais est limité. Cette pauvreté matérielle, on dit que les moines ne doivent pas avoir plus de 2 tuniques, par exemple, une pour changer l'autre quand elle est trop sale quand même. Cette pauvreté-là ne doit être qu'un moyen de nous détacher des choses du monde, de manière à nous détacher après de nous-mêmes. Mais en soi, ce n'est pas la pauvreté qui nous sauve, ce n'est pas la pauvreté matérielle qui nous sauve, qui nous sauvera. Mais dans cette conception-là, on cherche simplement à se dépouiller du matériel. On marche pieds nus, on se néglige plus ou moins. Je ne veux pas faire une caricature, mais il y a aussi de quelque chose de ça. Et alors que la vraie pauvreté, cette pauvreté-là n'amène qu'à une autre pauvreté, la pauvreté de soi-même. C'est ce que le Seigneur nous dit dans les béatitudes, bienheureux les pauvres en esprit. Ça ne veut pas dire les crétins, ça ne veut pas dire les pauvres d'esprit. Encore que ceux-là peuvent peut-être aussi être les premiers dans le royaume des cieux. Mais il ne s'agit pas de devenir un crétin. Mais les pauvres selon l'esprit, c'est les pauvres selon l'esprit de Dieu qui justement se dépouillent d'eux-mêmes et ne cherchent qu'à faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire la volonté à travers celle de ceux qui sont censés les commander, les diriger et envers lesquels et ils se mettent en situation d'obéissance. Voilà la raison pour laquelle, dans la vie monastique notamment, mais aussi dans la vocation du mariage, il est tellement important d'apprendre à obéir à celui qui est son igoumène, dans le mariage à sa femme ou à son mari, de manière à renoncer même aux choses les plus humainement parlant légitimes, si vous voulez. Il y a un merveilleux livre que je vous signale, un peu paru déjà il y a un certain nombre d'années, dans la collection de Bellefontaine, qui est écrit par un Finlandais, Tito Koljander, qui s'appelle « Le chemin des ascètes » et qui décrit la vie ascétique d'un homme du monde, pas simplement d'un moine. Et il prend comme exemple de renoncement à sa volonté propre, le jour où par cette température-là, j'exagère peut-être un petit peu, je vais encore au-delà de ce qu'il est en train de dire, mais enfin, et un jour de beau temps, madame lui dit, tiens mon chéri, pour aller au travail, prends ta gabardine. La tentation, on se répond, j'ai pas besoin de gabardine, il fait beau, je vais avoir trop chaud, et ça. S'il a le sens de l'obéissance, il va prendre sa gabardine, qui va l'embarrasser, il va mettre sur son bras, il va y aller. Il va aller au travail comme ça. C'est comme ça qu'on apprend à renoncer à sa volonté propre. Par amour pour l'autre, pour se déposséder de soi-même, on fait ce que l'autre nous demande. Je ne vais pas vous donner d'autres exemples, sans être, mais Et c'est à ce niveau-là que se situe la véritable obéissance et la véritable pauvreté. C'est être pauvre de soi-même. Et ceci, c'est fondamental. Pour les moines, c'est porté au niveau sacramentel, mais pour les laïcs, pour les fidèles, c'est aussi incontournable pour entrer dans le mystère de la vie d'union à Dieu. Et en faisant cela, on ne fait que d'imiter, et imiter en communion, c'est-à-dire, ce n'est pas une imitation formelle, ce n'est pas comme dans un miroir, mais c'est mouler en quelque sorte notre vie à celle du Christ. Non pas pour l'imiter formellement, mais pour l'imiter dans son esprit, en acquérant de lui la force de le faire et en le laissant agir, comme en devenant des pantins en quelque sorte, ou des marionnettes qu'on laisse volontairement manipuler par celui qui est notre maître, le Seigneur. Par cette obéissance, on ne fait que d'accomplir, on ne fait que de manifester notre communion au Christ, lequel, en venant sur terre, l'a fait par obéissance à Dieu son Père, et qui, renonçant en tout à son être propre, au bénéfice de la gloire qu'il a en étant Dieu, pour se faire semblable à tous les hommes, jusqu'à obéir à tous les hommes, y compris lors de son procès et de sa condamnation, jusqu'à sa mise en croix. C'est par obéissance à Dieu d'abord et aux hommes ensuite, par soumission aux uns et aux autres, que le Seigneur a renoncé non pas à ce qu'il est, mais a renoncé à l'exercice miraculeux de ce qu'il est pour lui-même, de manière à se faire semblable. Et lorsque nous obéissons nous aussi à un autre, quel qu'il soit, en premier lieu à son supérieur, à son mari ou à sa femme, ou à ses amis et tous ceux, ou à ses patrons, etc. Et avec une obéissance réelle, c'est-à-dire pas par veulerie pour obtenir quelque chose ou se faire bien voir, mais par volonté véritable de se dépouiller de soi-même, à ce moment-là, nous sommes des imitateurs du Christ. Et puisque nous l'imitons, nous recevons de lui non seulement la force d'accomplir cela qui souvent est au-dessus de nos propres capacités, mais nous est donné en même temps la gloire qui est la sienne, c'est-à-dire l'acquisition du royaume des cieux, ou, exprimé autrement, l'acquisition en nous de la vie divine. C'est le chemin de la divinisation. C'est ce que, dans l'Évangile, le Christ appelle à avoir en héritage la vie éternelle. Car la vie éternelle, ce n'est pas une vie qui durerait sans fin, si vous voulez. Ça, tout le monde l'aura de toute manière, cette vie-là, les bons comme les mauvais. Je mets des guillemets à bons et mauvais, mais je sais pas. Hein. Ce qu'il est question, quand il est question de la vie éternelle, c'est la vie divine. Il n'y a de vie éternelle qu'en Dieu, et c'est par participation à la vie divine qu'on acquiert la vie éternelle. Et que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle, veut dire que dois-je faire pour avoir en héritage la vie divine en moi, c'est-à-dire comment faire pour être divinisé. Et pour être divinisé, il ne s'agit pas seulement de prier, de communier le dimanche ou tous les jours, de lire les Saintes Écritures, d'essayer de limiter les péchés les plus gros, ou même les plus fins. Mais c'est vraiment conformer notre vie à celle du Christ, de manière à ce qu'il y ait un échange, que lui ayant pris notre vie, que nous acquérions la sienne aussi, y compris dans sa gloire. Alors je vous souhaite une bonne pauvreté.